Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Anecdote rapide. Mon père a reçu un courriel d'un client et à la fin, il est écrit « Envoyer du iPad de ma conjointe ». C'était parfait.
Ça mérite un Oscar. Ça reste dans le podcast.
C'est tellement
bien. Il faut que tu fasses fêter ça. Je m'en fous comment ça fait. Faut que ça fait. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cet épisode spécial de Podcast de Char, un épisode aujourd'hui interactif. On vous demanderait d'être près d'un ordinateur ou d'un cellulaire, prêt à googler.
Est-ce qu'une tablette, c'est correct?
Un iPad, c'est correct aussi.
OK, envoyez de mon iPad.
Envoyez de mon iPad, parce qu'on va vous parler, Germain et moi, là, de nos voitures préférées en termes de beauté. Les plus belles voitures jamais faites selon nos avis de jeunes garçons là, qui connaissent bien l'automobile. Et alors, vous allez pouvoir vous rincer l'œil devant ces belles courbes sans choquer votre partenaire à côté de vous.
Alors, on part!
On part sur les chapeaux de roue.
On part! Effectivement, Marc-André, je trouve que tu as eu une idée tout à fait géniale.
Ça m'arrive, hein?
Parce que de parler de visuel alors qu'on est séparé et qu'on est à l'audio, franchement, c'est un excellent moyen d'en parler.
Écoute, c'est pas très radiophonique, mais encore là, je me demande encore comment je vais faire pour avouer ce que je suis en ce moment. Fait que,
on se le demande tous si ça peut te rassurer.
Exactement. Mais commence donc, Germain. C'est quoi une voiture, toi, qui t'allume, là?
Je te lance tout de suite avec la simplicité dans sa plus grande expression. Tu sais, Marc-André, je suis un grand fan de la Mini. Et pour moi, la Mini a un design qui est un des plus beaux de l'industrie. Je m'explique, je sais, il va falloir que je me défende.
Oui, parce que le thème, c'est les plus belles voitures que tu as vues de ta vie. Là. Les plus beaux designs, pas les boîtes carrées. Là.
Et pour moi, la Mini en fait partie, parce que si on se replace au moment de sa création, c'est-à-dire en 1959, alors que les Américains faisaient d'énormes berlines avec des ailes pointues, des moteurs V8 qui débordaient de partout, eh bien, en Angleterre, un certain Sir Alec Issigonis, eh bien, il a développé une toute petite voiture qui pouvait accueillir 4 personnes relativement confortablement, qui était à roues motrices avant, avec un moteur à 4 cylindres transversal, qui était très économique, mais tellement agile qu'on pouvait aussi l'utiliser en sport automobile. En termes de design, je pense pas qu'on puisse arriver à mieux.
Ben, honnêtement, là, je peux pas dire que si tu me dis, tu sais, c'est quoi tes 10 voitures les plus belles de ta vie, j'aurais pensé une Mini. Mais quand j'entends ton explication, je comprends ça vient d'où. C'est vrai que côté design, c'est génial parce que la preuve, c'est que quand ils ont décidé de ressusciter la marque Mini, ils ont repris essentiellement le même design. Ils n'ont jamais cherché à l'améliorer, un peu comme une Porsche 911. T'sais?
Voilà, c'est une évolution et ben tu m'amènes à te parler de ces déclinaisons parce qu'ils ont été nombreuses et elles le sont encore aujourd'hui nombreuses. Aucune déclinaison n'est plus belle que l'original. Et pour moi, c'est quand même un signe très, 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 très fort de la perfection qui a été presque atteinte avec la Mini originale.
Non, t'as raison. Puis, tu sais, on voyait l'annonce qu'il avait faite il y a récemment à Mini. Tu sais, qu'on voyait des vieilles courses, là, avec plein de Ford Falcon, des affaires comme ça. Puis, même à l'époque, on se rendait compte comment la Mini était belle. C'est celle-là, la première, là. Donc, je pense que tu défends bien ton point, Germain. Si j'étais ton professeur de rhétorique au cours classique du Mont-Royal en 1940, ben je t'aurais donné une bonne note.
Ben merci. Seule différence, c'est qu'en 1940, la Mini n'existait pas encore, mais c'est un léger détail. Autre élément de design qui est intéressant sur la Mini, c'est la position de ses roues, c'est-à-dire aux quatre coins, littéralement. Et ça, on a essayé de le garder, mais ça s'est perdu tranquillement au cours de l'évolution. La nouvelle Mini, au tournant du millénaire, le conservait. La génération suivante, ça s'est perdu un peu et avec l'actuel, ça s'est dissipé encore plus. Donc, pour moi, de placer les roues vraiment aux quatre roues, ça... Comment?
Aux quatre roues. J'espère qu'il y a quatre roues.
De placer les roues aux quatre coins, pour moi, c'est un des éléments qui fait partie de son punch et de son éclat.
Bon, souvent, moi, la logique de Germain, je vais à une de mes voitures que je trouve particulièrement belle, c'est la Reliant Robin, une espèce d'horreur à trois roues.
Ben non!
Non, moi, je vais nommer une vraie voiture belle, Germain, mais...
Comment ça m'a fait peur?
Là, s'il y a des puristes dans le salon de voitures italiennes, vous allez vouloir m'assassiner. Vous allez demander à cousin Vinny de venir faire un tour chez moi après vous avoir écouté ce...
Il reste à l'île des Sœurs en passant.
Dans une des grandes tours, il y en a une dizaine. Fait que, chance sur dix. Parce qu'une voiture que je trouve particulièrement belle, moi, c'est...
Écrivez-moi, je vais vous donner son adresse.
C'est la Ferrari Dino. Là, je sais ce que vous allez dire. Une Ferrari Dino, ça n'existait pas à l'époque. Vous avez quasiment vrai, parce qu'à l'époque, Ferrari avait décidé de sortir une nouvelle marque qui s'appelait Dino. Comme un peu Toyota quand ils ont fait Sion, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est pour vous donner une idée. Ferrari cherchait à faire des voitures, entre guillemets, plus abordables, plus grand tourisme, et on a créé la marque Dino. Moi, celle que j'aime, c'est particulièrement celle qu'on appelait la 246 GT. C'est une voiture de tourisme, tout simplement, mais qui est, en mon humble avis, magnifique, de la manière que les phares ressortent du capot à l'avant, mais sans être comme Porsche. Là, on est vraiment dans une forme unique. Je trouve que c'est une voiture qui vieillit très, très, très bien. Elle était disponible en plein de belles couleurs, surtout qu'à l'époque, là, des années 60, tu sais, il y a beaucoup de couleurs qui étaient plutôt fades, hein. Il manquait un peu de saturation. Les couleurs de la Dino, c'était tous de beaux bleus, de beaux verts, de beaux jaunes, honnêtement.
De beaux rouges, peut-être, aussi.
Surtout, oui, oui, mais tu vois, c'est une des seules Ferrari que j'hésiterais même pas à prendre d'une autre couleur que rouge parce qu'ils ont plein de belles couleurs. Puis être très riche, probablement que j'aurais une Dino de chaque couleur pour faire comme mon sac de Skittles. Moi, j'aurais mon sac de Dino. Et aujourd'hui, supposément qu'on peut l'appeler la Ferrari Dino. Les puristes auraient fait la paix avec la chose, là. On peut maintenant dire une Ferrari Dino. Mais bon, moi, personnellement, c'est vraiment des Ferrari qui ont existé. C'est peut-être celle qui me parle le plus parce que je la trouve originale, tu sais.
Effectivement, Marc-André, une très, très, très belle voiture, la Ferrari Dino. On se rappelle en plus à l'époque que les Ferrari étaient produites en beaucoup plus petite série qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, voir une 458 ou une 488, machin chouette, c'est pas nécessairement rare, surtout quand on se promène dans les quartiers peut-être un petit peu plus huppés. Mais à l'époque, de voir une Ferrari, c'était un exploit. Ma première de ce palmarès, ben, c'était une Anglaise. La deuxième aussi, c'est la Jaguar E-Type. Et il y a un lien avec la Ferrari parce qu'à sa sortie au début des années 60, en 1961, pour être plus précis, Enzo Ferrari aurait dit que c'était la plus belle voiture qui n'avait jamais été produite à ce moment-là. Pour moi, c'est très évocateur parce qu'on sait que M. Ferrari avait beaucoup de goût et il a développé des voitures exceptionnelles, mais il était capable d'admettre que un concurrent, finalement, avait produit une des plus belles voitures, et on la doit à M. Malcolm Sawyer. Pour moi, les plus belles, définitivement, c'est la série 1 et la série 2. Après ça, ça s'est un petit peu gâché avec la série 3. Donc voilà, comme jeune garçon, j'en avais un exemplaire à l'échelon 18e qui avait été produit par Burago. C'est une version cabriolet et franchement, je la trouve aussi belle en cabriolet qu'en coupé. C'est vraiment pas le cas de tous les modèles.
Non, c'est rare. Habituellement, ces vieilles voitures, ben ces vieilles voitures-là, ces voitures plus âgées-là, ils étaient tous belles en coupé, tu sais. C'est là qu'on les connaissait, mais c'est vrai qu'en décapotable, elle est belle. Je te le donne.
Elle est tout aussi belle en décapotable. Le chrome est présent, mais ça déborde pas non plus. Ce qui est impressionnant de cette voiture-là, c'est toute l'enfance qui est mise sur le long capot qui rouvre là à l'envers, si on veut. Donc, c'est très, très, très particulier.
Puis la E-Type, ce qui est bien, c'est que c'est une voiture qui est accessible dans le sens que, tu sais, une en parfaite condition, ça va te ruiner, là. Mais on peut en trouver d'occasion qui sont pas si chères que ça. Puis quelqu'un qui est habile de ses mains peut faire quelque chose de bien avec ça.
Ben, habile de ses mains, surtout qui est débrouillard et électricien, parce qu'on sait que les Jaguars de cette époque-là, ben, c'était tout sauf fiable. Et
je sais pas. Aujourd'hui, un héritage qui est poursuivi hein, par Jaguar de faire des voitures qui brisent à chaque coin de rue.
Voilà, je ne pourrais mieux dire. Et je sais pas si tu as écouté la série Mad Men. Ben, en ce qui me concerne, je suis en train de la visionner. Et il y a quelques belles scènes qui se déroulent dans une concession Jaguar, justement au milieu des années 60. Et les images sont de toute beauté. Il y a d'ailleurs une excellente référence à la fiabilité légendaire de Jaguar.
C'est quoi la référence?
Je te laisse l'écouter.
J'ai pas le temps. C'est quoi la référence?
Je te laisse l'écouter.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Moi, une autre voiture que je trouve particulièrement magnifique, là. Puis ça, c'est une auto rare. Ça me surprendrait pas que vous ayez la difficulté à la trouver. C'est l'Alfa Romeo Disco Volante.
Oh.
La Disco Volante, ça veut dire soucoupe volante, tout simplement, dans la langue de Molière, là. Donc, vous allez me dire, de quoi une Alfa Romeo soucoupe volante? Est-ce que ça existait? Oui et non. Parce que voyez-vous, la Disco Volante, c'est en fait une voiture qui a été faite par un carrossier. C'est un carrossier, là, c'est une époque, c'était bien connu. Si on pense à Pininfarina ou à Bertone, tu sais, c'était des compagnies qui spécialisaient dans le design de voitures et qui prenaient, si on veut, un châssis puis qui créaient par-dessus ça une belle carrosserie. Ben, c'est un carrossier moderne qui s'appelle Touring, en fait, qui ont pris une Alfa Romeo 8C. Ça, tu t'en rappelles, Germain, la 8C?
Absolument.
C'était comme une magnifique voiture, déjà, à la base, là. C'était une belle voiture deux portes, là. Ils ont pris la 8C puis ils l'ont embellie, à mon avis. C'est pourquoi j'aime, en fait, la Disco Volante, c'est vous allez la voir, là, puis je suis pas mal sûr qu'elle plaira pas à tout le monde. Mais comme on dit, la beauté derrière les yeux de celui qui regarde. Cette voiture-là, la première fois que je l'ai vue, je la comprenais pas. Puis plus je la regarde, plus j'admire les détails ici et là, plus j'admire comme les lignes qui se poursuivent à droite et à gauche, les éléments stylistiques. Je l'aime de plus en plus, cette auto-là. Et c'est surprenant, elle n'est pas si dispendieuse que ça. On peut trouver une Alfa Romeo Disco Volante pour environ là un demi-million de dollars canadiens. Là, vous allez me dire, là, c'est
une aubaine, une aubaine.
C'est de l'argent, mais tu sais, on parle de voitures dispendieuses des fois, surtout dans ces vieilles super voitures-là. La Disco Volante est magnifique. Et honnêtement, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, je suis convaincu, puis ça vaut ce que ça vaut, là, mais je suis convaincu que d'ici 10, 15, 20 ans, ça va devenir une voiture de collection parce qu'elle est très, très belle.
Oui, j'ai pas de difficulté à croire que ça pourrait être un bon investissement pour celui qui voudrait avoir une belle voiture et peut-être profiter d'une certaine...
Vous faites une offre, mesdames et messieurs qui nous écoutez, si vous avez une Disco Volante ou vous mettez la main sur une Disco Volante, je m'engage à la serrer une fois par année gratuitement.
Troisième voiture et non la moindre pour moi, je vais y aller avec des devinettes et je suis curieux de savoir si tu vas être capable de la deviner.
Ça, en maternelle, c'était pas ma matière forte, les devinettes.
Bon, ben on commence tout de suite. C'est une voiture dont l'assemblage a débuté en 1938 et qui s'est poursuivie jusqu'au début des années 2000. C'est une voiture qui s'est vendue à plus de 21 millions d'exemplaires, qui est reconnue par les gens de tous les âges, de tous les pays du monde. Et toujours pas d'idée?
C'est pas une Lada, j'espère.
Non. J'arrive au bout de mes indices. Les Québécois se rappellent surtout d'elle pour avoir servi de véhicule de livraison de poulets.
De quoi tu parles? 1938.
38!
Aïe, aïe, j'en ai aucune idée. Donne ma langue au chat, Germain.
Ben, c'est la coccinelle?
Oh mon Dieu. Ben oui, la Beetle, la voiture du peuple que Tonton Adolphe avait promis aux Allemands pour savoir des votes.
Voilà, donc la Volkswagen Beetle, et quand il est question de design, pour moi, c'est une réussite lorsque justement quelqu'un de tous les âges, peu importe où il se trouve sur la planète, reconnaît la Beetle et ne la confond avec rien d'autre. Pour moi, c'est un signe d'une très, très grande réussite.
Ah, stylistiquement parlant, c'est peut-être réussi, mais tu la mettrais vraiment au même niveau que les voitures que je viens de nommer, par exemple?
Ben, quand il y a question de design, pour moi, j'ai aucune difficulté à identifier la Beetle comme étant une des grandes réussites de l'industrie.
En fait, tu as raison de dire qu'en 1938, là, tu regardes le paysage automobile de l'époque, la Beetle, c'était un peu comme la Mini, là, tu sais, est venue tout bousculer, est venue changer certaines conventions, puis faut pas l'oublier, mais la Beetle est un peu à la base de la Porsche 911, hein. Les premières Porsche que développait Ferdinand, ben, ils se basaient beaucoup sur les châssis de la Beetle. Fait que je pense que tu as raison de dire que... C'est drôle parce que quand on regarde une Beetle d'époque, là, une vieille Beetle, on voit beaucoup de lignes que même les Porsche 911 modernes ont. Donc, si vous avez une Porsche 911, dites-vous que vous avez un peu de Beetle et de Germain en vous.
Voilà, c'est dit.
D'autres voitures, puis c'est la dernière de laquelle je vais parler aujourd'hui. Écoute, je pourrais en parler d'un paquet de de voitures, là, c'est l'Alpina B12. Est-ce que ça dit quelque chose, ça? C'est plutôt rare.
Ben oui, il n'y a aucun doute. C'est une très, très, très belle voiture.
Ça, dans le fond, une Alpina B12, pour faire des histoires courtes, là, Alpina, c'est un manufacturier allemand qui modifie des BMW, OK? La compagnie existe depuis quelques années déjà. En fait, la compagnie a commencé ses activités, là, dans les années 60. On modifiait déjà à l'époque des BMW pour faire de la course, on modifiait les suspensions, on modifiait les moteurs. Aujourd'hui, ça existe encore, on rend les voitures souvent plus confortables, plus puissantes, mais à l'époque, on faisait beaucoup de modifications de performance. Dans les années 90, là, il y avait la BMW série 8 qui existait, mais pas la moderne, tu sais, dans le temps, c'était vraiment une...
Oh oui, avec les phares cachés.
Exactement, puis c'est pas une histoire courte, il y avait un mécanicien sur l'île Perrault, d'où je viens, qui avait une BMW série 8 dans son showroom avec un V12, parce qu'on pouvait avoir cette auto-là avec un V12, mais le moteur était complètement saisi. Il disait, moi, je sais pas qui peut réparer ça. Puis lui et ses fils étaient mécaniciens, alors ça vous en dit long sur la fiabilité et la complexité de cette voiture-là. Ben, imaginez-vous donc BMW, ben, c'était pas assez parce qu'Alpina a dit, nous, on va faire quelque chose de bien avec ça. Et c'est ainsi qu'est née la V12. Donc, une V12, c'est une BMW série 8 de première génération modifiée par Alpina. Et je trouve les lignes de cette voiture-là complètement superbe. Les petites modifications qui ont été faites par Alpina rendent la voiture complètement à un autre niveau, quant à moi, surtout si on arrive à avoir les roues Alpina d'origine. Là.
Puis, mais c'est très exclusif, là.
Non seulement c'est exclusif, mais on pouvait avoir, là, parce qu'il y a trois moteurs différents, là, mais si on prenait le V12 qu'Alpina a modifié, on avait, là, dans les années 90, 424 chevaux, 444 livres-pieds de couple, et aujourd'hui, on peut en avoir une pour moins de $50. C'est vraiment une aubaine, là.
Au moins 50 $.
50 000 $, hein, pardonnez-moi, mesdames et messieurs, vous avoir créé de fausses attentes. On me reproche souvent ça, d'ailleurs, dans la vie.
Mais, oh, monsieur... C'est dit.
Mais voyons, donc pour 50 000 $, on peut trouver une Alpina B12. Je dis pas que c'est facile. Souvent, il faut aller chercher outre-mer là, pour en trouver. Mais il y a moyen d'en avoir pour trop.
L'acheter, c'est une chose, mais ensuite, être capable de l'entretenir,
ah, c'est des
ça,
horreurs,
c'en est une autre. Là.
La série 8 de première génération, c'est pour ça qu'on n'en voit presque plus, parce qu'elle s'est même bien vendue au Québec. Là, c'était juste pas fiable. Toutes les options mécaniques, là, oui, les moteurs à 8 cylindres, c'était moins pire, mais quand même, c'était beaucoup d'entretien. Puis c'est des autos qui ont mal vieilli mécaniquement et électroniquement. Mais en trouver une en bonne condition, vous allez vraiment avoir une belle voiture sous la main, assez unique. Puis si c'est une Alpina B12, ben c'est un gros plus. Tu sais, Germain, on dit que la beauté est derrière les yeux de celui qui regarde, que tous les goûts sont dans la nature, que les goûts...
C'est ce que les bien-pensants disent.
Ben, en fait, je suis un peu d'accord avec ça. Tu sais, moi, personnellement, je suis un gros fan de la crème glacée au chocolat chez Costco, mais ma copine, c'est plus la deux couleurs. Tu sais, ça se discute pas. C'est des préférences. Par contre, je remarque les voitures qu'on nomme, là, c'est toutes des vieilles voitures. Pourquoi les voitures modernes, on n'arrive pas à les apprécier autant que ceux-là?
Ben, écoute, peut-être les apprécierons-nous plus tard, lorsqu'elles auront vieilli comme un bon vin, par exemple, et peut-être que le fait qu'on les voit tous les jours les rend peut-être moins désirables, mais chose est certaine, aujourd'hui, l'aérodynamisme dicte le design, et ça, malheureusement, ça enlève ça enlève un peu de créativité aux manufacturiers.
Ben, c'est un beau message d'espoir que tu lances aujourd'hui, parce que si vous êtes comme moi, vous avez de la misère à être apprécié en ce moment, dites-vous que vous allez être apprécié plus tard.
Peut-être.
Peut-être.
Merci d'avoir été des nôtres. À la table à dessin et au micro, c'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer.
C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique.
C'était une production Cube Radio.